Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Merci à la louange. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Vous savez, c'est une chose de chanter, c'en est une autre de faire descendre l'onction. Eh oui. Alléluia. Et c'est bon quand l'onction est là. Présence du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Est-ce que vous allez bien cet après-midi? Est-ce que vous êtes prêts pour la partie B? Alléluia. De ce matin, combien d'entre vous voulez expérimenter un réveil spirituel? Gloire à Jésus. On dirait qu'il y a des gens qui ont faim de Dieu ici. On dirait qu'il y a des gens qui ont de l'appétit. Hallelujah! Vous savez, mes amis, à quoi cela sert-il de servir Dieu et de suivre Dieu à moitié? Élie l'a dit. Il est monté sur le mont et il a dit devant ses 450 prophètes de Baal, il a dit, jusqu'à quand, peuple de Dieu, peuple d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux? Si l'Éternel est Dieu, servez Dieu. Si les Baals sont Dieu, servez-les. Mais ne clochez plus. Et moi, je dis que si nous avons donné notre vie à Jésus, si Jésus est devenu le Seigneur et le Sauveur de notre vie, s'il est notre Maître, si nous venons à l'Église, pourquoi marcher à 50 à l'heure lorsque l'on peut avancer à 100 à l'heure? C'est le temps de vivre et d'expérimenter un réveil spirituel. Mais sachez une chose, Dieu ne vous l'imposera pas, personne ne vous l'imposera, c'est vous qui décidez. Vous déterminez la vitesse à laquelle vous voulez rouler. Hallelujah. Mais moi, je vous dis, roulez pour Dieu. Foncez pour Dieu. Avancez pour Dieu dans le nom de Jésus. Donc ce matin, j'ai commencé à enseigner sur comment expérimenter un réveil personnel. Et je vous dis, la première chose que vous devez faire, vous devez changer votre façon de prier. Est-ce que c'est intégré cela? La deuxième chose que vous devez faire, vous devez changer votre façon de donner. Vous savez, notre vie se révèle dans ce que nous donnons. Dans ce que nous donnons à notre mari, dans ce que nous donnons à notre femme, dans la façon dont nous nous comportons les uns avec les autres, cela reflète notre cœur, cela reflète notre vie. Mais voyez-vous, nous devons apprendre à changer notre façon de donner. Et nous avons besoin de donner avec notre cœur. Amen. Et la troisième chose que nous devons faire pour expérimenter un réveil personnel, nous devons nous débarrasser des Delilah de notre vie. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? C'est le temps maintenant. C'est le temps éloge. C'est le temps éloge. Je sais que vous n'avez pas compris mon titre, mais c'est pas grave, je vais vous le répéter. C'est le temps éloge de se débarrasser des Delilah de notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Delilah? Eh oui. Donc nous tournons dans le livre des Juges. Et lorsque nous tournons dans le livre des Juges, nous nous rappelons que nous entrons dans un livre qui est appelé un livre de l'obscurantisme, un temps de ténèbres qui a existé donc pour le peuple d'Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu Moïse donc qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte, qui a reçu cet appel, qui a reçu cette vision, et cette vision, il l'a inculquée à Josué. Et vraiment avec puissance et avec gloire, Josué a mené vraiment le peuple de Dieu dans le pays de Canaan. Ils ont commencé à s'emparer de territoires, ils ont commencé à s'emparer de villes, ils ont pris la ville de Jéricho, et ils ont avancé vraiment. Et dans le livre de Josué, on voit un homme qui a une vision. Et Josué a une vision, il sait où il va, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Et pendant tout le temps de Josué, toutes les années du temps de Josué, on voit combien le peuple de Dieu a immensément progressé, combien il a avancé dans cette terre promise. Il y avait des géants, il y avait des obstacles, il y avait toute espèce de choses, mais on voit une grande progression. Nous rappelons qu'avec Moïse, le peuple est resté 40 ans dans le désert, qu'il a tourné. Il ne s'est jamais repenti, il n'a jamais sorti de son incrédulité. Dieu a dû attendre qu'une nouvelle génération se lève. Et là, avec Josué était déjà âgé, mais il a amené cette nouvelle génération dans la terre promise. Et ils se sont emparés, vraiment, ils ont commencé à s'emparer, pas totalement, mais ils ont commencé à s'emparer. Donc de cette terre promise, ils ont pris des villes, ils ont vaincu des peuples, et ils ont fait donc des choses extraordinaires. Il y a eu de grands exploits qui ont été libérés. Et après le livre de Josué, nous entrons dans le livre de Juges. Amen. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Josué est parti. Amen. Josué n'est plus là. Et nous voyons donc des juges qui vont se succéder. Et voyez-vous, le livre des juges, c'est un temps d'obscurantisme parce que le peuple de Dieu a perdu sa vision. Comprenez? Et il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il n'a plus le cœur de conquérir. Vous savez, c'est très dangereux lorsque on n'est plus en état de conquête. Parce que Dieu nous a appelés à conquérir. Dieu nous a appelés à aller de l'avant. Dieu nous a appelés à être en ébullition pour lui. Et j'aime donc ces deux panneaux que nous avons mis sur l'estrade. Et j'espère que vous avez eu le temps de les voir et de les lire. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela éventuellement? Ok. Et ces deux panneaux qui disent « Son dernier ». Je répète, son dernier commandement est devenu quoi? Notre première. Amen. Et donc, je prie dans le nom de Jésus que ce soit notre vision, c'est notre vision, mais que ce soit votre vision, que son dernier commandement devienne par-dessus toute autre chose. Et quoi qu'il se passe, et quoi que le diable fasse, que son dernier commandement devienne notre première priorité. Devienne votre première priorité. Et cette première priorité, c'est cette grande mission que Jésus nous a donnée. Et il nous a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, amen, imposez les mains aux malades, guérissez, chassez les démons, et vraiment amenez le royaume de Dieu sur la terre. Et ça, c'est notre première priorité. Est-ce que c'est votre première priorité, hein? Donc nous devons garder vraiment les buts et la vision de Dieu imprégnés à l'intérieur de nous et nous devons la protéger et la protéger jalousement, cette vision que Dieu nous a donnée, cet appel et cette mission que Dieu nous a donnée, parce qu'il y a des ennemis autour de nous, des ennemis de cet appel et des ennemis de cette vision, et nous devons faire bien attention parce que tout aussi fort que nous soyons ou tout aussi enracinés dans la maison de Dieu que nous avons pu être, le diable peut déraciner dans les temps dans lesquels nous sommes même des gens solides et les envoyer balader et les rendre infructueux et inutiles pour son royaume. Donc nous devons être très, très vigilants. Amen. Donc nous voyons qu'avec Josué, le peuple de Dieu a avancé, il avait une vision, il savait où est-ce qu'il allait, il savait qu'il devait prendre cette terre promise. Et lorsque nous entrons dans les juges, nous voyons le peuple de Dieu qui ne sait plus quoi faire, qui n'a plus de vision, qui ne sait pas par quel bout prendre la situation, et finalement qui tombe dans l'obscurantisme. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a plus de vision? On termine par adorer les dieux du monde. Et donc le peuple de Dieu n'a cessé dans le temps des juges de tomber dans l'idolâtrie, d'aller se mélanger au culte des païens, d'adorer leurs faux dieux, de prendre plaisir à leurs gâteaux et à leurs sacrifices, et à perdre la vision. Et qu'est-ce qu'il se passait? Continuellement, c'est un livre qui est répétitif, vous voyez? Lorsque vous le lisez, vous tombez toujours dans les mêmes histoires. Ce sont d'autres noms, d'autres personnages, mais c'est la même histoire qui se reproduit au moins 7 ou 8 fois. Et donc, nous voyons, le peuple d'Israël tombe dans l'idolâtrie. Et là, au bout d'un moment, ils passent des années dans l'idolâtrie. Au bout d'un moment, ils ouvrent leurs yeux et se disent, tiens, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. On est esclaves, on n'a plus rien, on est malheureux, on est misérables. Crions à l'Éternel. Alors ils crient à l'Éternel. Lorsque Dieu voit la sincérité de leur cœur, il leur envoie un juge qui va être doté de puissance. Et tous les juges que Dieu a envoyés ont tous eu des caractéristiques différentes. Certains étaient pleins de sagesse, d'autres ont été utilisés donc dans différents domaines, en fait. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Et donc, Dieu suscite un juge. Et donc, ce juge amène la libération. Le joug de l'ennemi est brisé sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu reste dans le repos. Et lorsqu'il est dans le repos, il oublie l'Éternel et il retombe dans l'idolâtrie et il retombe dans l'esclavage, etc., etc., etc. Donc c'est un livre qui n'est pas très, très enthousiasmant, mais qui est très important, parce qu'il nous apprend que lorsque l'on désobéit à Dieu, lorsque on ne suit plus ses plans, lorsqu'on tombe dans le repos ou dans le sommeil ou dans je ne sais trop quoi, on tombe et on s'expose à tomber dans l'esclavage. Est-ce que vous comprenez cela? Et moi, je suis là pour vous dire que vous devez expérimenter un réveil personnel. Et je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, mais mes amis, il faut monter à l'autre niveau. Et même si vous êtes au barreau 1, il faut monter au barreau 2. Au barreau 2, si vous êtes au barreau 6, il faut monter aussi au barreau 7. Ne vous satisfaisez pas de là où vous êtes, mais continuez à avancer dans le nom de Jésus. Ne vous arrêtez pas. La stagnation, c'est le meilleur moyen de rétrograder. Nous devons toujours progresser. Nous devons toujours aller de l'avant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, OK, Ok, nous voyons en fait donc que dans le livre des juges, Dieu nous montre en fait que ce qui arrive à Israël est toujours en relation, est complètement imbriqué avec la relation du peuple de Dieu avec Dieu. Dans tout ce qui leur est arrivé, c'était toujours en relation avec leur relation avec Dieu. Ça avait toujours à voir avec leur relation avec Dieu. Lorsqu'il y avait de l'obéissance, il y avait de la victoire, il y avait de la délivrance, il y avait de la liberté, il y avait de la prospérité. Lorsqu'il y avait de la désobéissance, il y avait donc de l'idolâtrie et toutes ces choses, il y avait de l'esclavage et de l'oppression. Amen. Et donc, en fait, très rapidement, juste pour vous redresser un petit peu le portrait donc du livre des juges, on voit donc d'abord le peuple d'Israël qui a été vendu. Dieu, la Bible dit que Dieu les a vendus. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Dieu les a vendus au roi de Cushan. Et le roi de Cushan, donc, c'était un roi donc de Mésopotamie, et pendant 8 ans, ils ont été sous son esclavage. Et Dieu a suscité Othniel, donc, qui est venu, qui a été un juge et qui les a libérés. Amen. Et puis après, ils sont retombés dans l'idolâtrie, et la Bible dit que Dieu a fortifié Eglon. Dieu a littéralement fortifié les ennemis d'Israël. Vous comprenez cela? C'est quand même incroyable. Dieu a fortifié le roi d'Eglon, le roi de Moab, et pendant 18 ans, il a asservi le peuple d'Israël, et puis, ils ont crié à Dieu, et Dieu a suscité Ehud, qui a été un puissant juge, et pendant 80 ans, il y a eu un repos pour le peuple d'Israël. Et puis, ils sont retombés dans l'idolâtrie. Et là, la Bible dit que Dieu les a vendus à Jabin. Jabin, donc, qui était le roi de Canaan. Et donc, il y a eu Sisera, il y a eu tout ce qui s'est passé. Et pendant 20 ans, ils ont été sous l'oppression de Jabin. Et qui Dieu a suscité, là? Dieu a suscité Déborah. Okay? Et puis après, ils sont encore retombés dans l'idolâtrie. C'est pas encore mon sujet, mais simplement, je vous rappelle ces choses. Ils sont encore retombés dans l'idolâtrie, dans la désobéissance. Et là, Dieu les a livrés pendant 20 ans. Vous savez, c'est eux qui ont déterminé la longueur de leur esclavage. Hein. Pendant 20 ans, ils sont restés donc sous le talon de Madian. Et qui est-ce que Dieu a suscité pour les libérer des Madianites? Ah, merci. Il a suscité Gédéon. Et après Gédéon, il y a eu 40 ans de repos. Amen. Puis il y a eu d'autres juges. Il y a Tola, Jephté et d'autres juges pour finalement arriver à Samson. Hallelujah. Et donc, Samson est venu et il a libéré le peuple d'Israël de 40 ans d'oppression, donc sous les Philistins. Gloire à Dieu. Et moi, ce soir, je vais vous parler de Samson. Amen. Samson s'appelle le fils du soleil. Samson était un homme que Dieu avait suscité. Sa naissance n'était pas naturelle, sa naissance était surnaturelle. Dieu avait appelé cet homme et avait mis sur lui un esprit de puissance. Il avait donné ce nom de Samson parce qu'il devait briller dans sa génération. Mais vous savez que lorsque vous brillez, et Dieu vous appelle à briller, vous attirez toute espèce de choses à vous. Vous attirez ce qui est bon, vous attirez aussi ce qui n'est pas bon. Parce que lorsque l'on brille, et on ne brille pas simplement des feux du monde, mais on brille de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la consécration que l'on a au Dieu, eh bien, on brille dans ce monde et on attire différentes choses. Certaines personnes se demandent, mais pourquoi je suis attaquée? Mais pourquoi je fais face à tellement de choses? Mes amis, si vous devez briller pour Christ, vous devez savoir qu'il y a des gens qui vont voir dans l'esprit que vous brillez et qui vont être ennemis de cette lumière que vous libérez. La Bible dit que nous sommes appelés à être des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Amen. Donc, Samson brillait. C'était un homme qui brillait. Il avait vraiment la lumière de Dieu sur lui. Il avait la puissance de Dieu sur lui. Et moi, je suis là pour vous dire que lorsque vous brillez, lorsque vous avez la lumière de Dieu sur vous, vous devez faire attention aux délilahs de la vie. Parce que lorsque l'on brille, il y a des délilahs qui vont venir sur notre chemin. Et si vous voulez expérimenter un réveil personnel, non seulement vous devez apprendre à prier de façon différente, vous devez changer votre façon de prier, changer votre façon de donner, mais vous devez maintenant vous débarrasser de tous les délilahs qui sont scotchés à votre vie. Il faut maintenant vous en débarrasser. Et nous sommes dans Juges 16. Regardez avec moi ce qu'il est écrit dans Juges 16. Au verset 4. Il est écrit, « Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. » Et je veux simplement m'arrêter là. Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Mes amis, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu sur vous, vous ne pouvez pas aimer n'importe quoi. Vous ne pouvez plus aimer n'importe quoi. Vous ne pouvez pas donner votre cœur à n'importe qui ou à n'importe quoi. Vous devez faire attention. Samson était un Naziréen. Il avait été consacré depuis le sein de sa mère. Ce n'était pas n'importe qui. Et moi, je suis là pour vous dire, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été consacré par Dieu. Dieu est venu vous chercher là où vous étiez. Vous étiez perdu, sans espoir. Il n'y avait plus de vie à l'intérieur de vous. Vous ne connaissiez pas quel était le chemin. Mais à un moment donné dans votre vie, Dieu est venu sur votre chemin. Il vous a montré la lumière. Il vous a montré le chemin. Il a fait de vous un Naziréen. Jésus était un Naziréen, consacré depuis le ventre de sa mère. Samson était un Naziréen. Il ne pouvait pas aimer n'importe quoi. Mais la Bible dit que Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Et la femme qu'il aima était Delila. Voyez-vous, lui, il a aimé, mais Delila, elle ne l'aimait pas. Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc, qu'est-ce que les princes des Philistins font? Ils vont voir cette femme parce qu'ils savent que Samson aime Delila. Et ils vont lui dire, maintenant Delila, tu vas faire quelque chose. Tu vas le flatter parce que notre but, notre objectif, c'est que tu le flattes pour savoir d'où lui vient sa grande force. C'est l'objectif de l'ennemi contre vous. Satan veut savoir d'où vous vient votre grande force. Satan veut attaquer la force qu'il y a dans votre vie. Son objectif, c'est d'atteindre et de vous atteindre dans le siège de votre force. C'est pourquoi vous devez éliminer tous les délilats de votre vie. Ils ont dit, nous nous rendrons maîtres de lui. Vous savez, Satan veut se rendre maître de nous. Pourquoi? Parce que nous le lirons pour le dompter. Vous voyez, ça c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi veut vous lier, il veut se rendre maître de vous, parce qu'il veut vous dompter. C'est le but ultime de l'ennemi. Mais voyez-vous, Delila est une femme dans la Bible, mais Delila aujourd'hui peut être n'importe quoi. Delila peut être votre télévision. Je n'ai rien contre la télévision. Mais Delila peut être votre télévision. Delila peut être votre voiture. Delila peut être votre argent. Delila peut être votre travail. Delila peut revêtir toute espèce de forme. Delila peut être des amis, des relations, des loisirs, toute espèce de choses. Parce que Delila, son but même, c'est de se mettre à côté de l'homme ou de la femme de Dieu. C'est de se mettre à côté de celui qui a de la puissance. Combien d'entre vous pensez « j'ai de la puissance » Combien d'entre vous, vous savez que même si vous n'avez pas tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que vous voulez ou tout ce pourquoi vous priez, combien d'entre vous savez que vous avez de la puissance, qu'il y a une puissance qui réside à l'intérieur de vous? Vous devez savoir qu'il y a une puissance à l'intérieur de vous. Vous devez savoir que l'Esprit de Dieu repose à l'intérieur de vous. Vous devez savoir que lorsque Dieu vous appelle à prier et que vous vous mettez à genoux et que vous commencez à prier, même si vous êtes tout seul dans votre chambre, il y a une puissance qui sort de vous. Mais voyez-vous, le but de l'ennemi et le but que l'ennemi avait contre Samson, l'ennemi a vu que ce Samson y brillait. Il avait l'esprit de Dieu sur lui. Il avait un esprit de puissance. Et voyez-vous, tous ceux qui ont un esprit de puissance, tous ceux qui ont une onction spéciale sur leur vie, j'aimerais bien que vous m'écoutiez, mais tous ceux qui ont une onction spéciale sur leur vie, ils auront un Delila qui viendront se scotcher tout à côté d'eux. Parce que l'ennemi veut la puissance que Dieu a mise sur votre vie. L'ennemi n'aime pas vos dons. L'ennemi n'aime pas vos talents. Il trouvera, il cherchera un moyen d'étouffer vos talents, de vous lier dans votre force et dans votre capacité. Donc lorsque l'ennemi a vu que Samson aimait Delila, il a dit, Delila, maintenant va, ne le lâche plus, ne le quitte plus, sois à côté de lui, flatte-le, parle-lui, pour découvrir d'où lui vient cette grande force. L'ennemi ne pouvait pas vaincre Samson. Les Philistins et toute une armée entière ne pouvaient pas le vaincre, parce qu'il avait la puissance de Dieu à l'intérieur de lui. L'ennemi voulait cette puissance. Il voulait capturer ce don, capturer cette puissance qui était à l'intérieur de lui. Donc Delila peut être n'importe quoi, et vous devez le savoir. Si vous servez Dieu, dans quelque domaine que ce soit, selon vos talents et vos capacités, certains d'entre vous, vous avez des talents et des capacités, et vous servez Dieu dans des choses administratives, d'autres vous servez Dieu dans des choses pratiques, d'autres, Dieu a mis sur vous un don vraiment, quelques dons que ce soit, mais Dieu vous a donné un don, Dieu vous a donné un talent. D'autres personnes, Dieu vous a donné la puissance, la capacité de prier. D'autres personnes, Dieu vous a donné vraiment la capacité de donner. D'autres personnes, Dieu vous a donné des talents créatifs, toute espèce de choses. À partir du moment où vous avez quelque chose qui sert Dieu, l'ennemi enverra un Delila sur votre chemin. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez être vigilant, vous devez faire attention, parce que ce Delila est là pour éteindre la capacité de Dieu en vous. Donc la raison numéro un, le but numéro un, c'était de le séduire pour le tromper. Le but numéro un, c'était de le lier. L'ennemi veut vous lier, mais vous n'allez pas vous laisser lier, n'est-ce pas? L'ennemi voulait savoir d'où lui venait cette force extraordinaire. Écoutez-moi bien. Satan est intéressé par votre puissance. Satan court après votre force, alors que vous pensez que Satan s'intéresse à vos faiblesses. Satan ne s'intéresse pas à vos faiblesses. Vous vous intéressez à vos faiblesses. Vous pensez, je suis faible dans ce domaine, donc je vais colmater ces faiblesses. Satan ne s'intéresse pas à vos faiblesses. Satan court après votre force. Il court après tout ce qui vous rend puissant, tout ce qui vous rend extraordinaire. Parce que Samson était quelqu'un d'extraordinaire. Il avait une force et une puissance extraordinaire. Ce qui caractérisait ce juge-là, de tous les autres juges qu'il y a eu donc dans le livre des juges, c'est la puissance qui était sur lui. Il avait une force comme personne n'avait jamais eu. Il était capable de prendre les portes de la ville, de les monter sur la montagne. Avec une mâchoire d'âne, il était capable donc de détruire une armée. Dieu l'avait revêtu d'une force. Dieu l'avait revêtu d'une puissance. Voyez, votre force, c'est ce qui, la force ou le don que Dieu a mis en vous, c'est ce qui vous rend supérieur. Et vous devez savoir, qu'est-ce qui vous rend supérieur? Il ne s'agit pas d'être supérieur l'un envers l'autre, mais c'est le domaine dans lequel vous excellez. Comprenez? C'est le domaine dans lequel Dieu vous utilise. Vous devez le connaître et vous devez le reconnaître. Parce que l'ennemi cherche et il pointe le domaine dans lequel vous êtes supérieur. Les choses qui vous rendent surnaturelles. Est-ce que vous savez? Et est-ce que vous réalisez? Nous sommes des êtres naturels qui servons Dieu. Mais lorsque nous donnons nos dons et nos talents à Dieu, que Dieu commence à utiliser ses dons et ses talents pour lui, dans certains domaines, nous devenons surnaturels. Vous comprenez cela? En fonction de l'appel de Dieu qui est sur votre vie, vous passez du naturel au surnaturel. Vous êtes naturel, n'est-ce pas? Mais lorsque vous commencez à fonctionner dans l'onction et dans le don que Dieu a placé sur votre vie, en un instant, vous devenez surnaturel. N'est-ce pas? Je pense par exemple à la sono. Les personnes qui sont à la sono travaillent sur un matériel qui a besoin, qui a la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais qui a besoin d'être changé. Et justement, j'avais un rendez-vous avec Damien, nous avons parlé de différentes choses, et donc il y a un professionnel donc, qui parlait avec lui, et qui véritablement le félicitait le travail que la sono était capable de faire avec le matériel que nous avons depuis 15 ans, n'est-ce pas? Vous savez combien les choses vont vite, tous ces matériels et toutes ces choses sont tellement, la technologie va tellement vite. On n'arrive jamais à la suivre, la technologie. Elle va plus vite même que le marché. La technologie avance. Avoir un matériel, et nous prions et nous croyons, et nous savons que Dieu va changer ce matériel, Dieu va nous donner le meilleur dans le nom de Jésus, Dieu va donner à la sonorie, à cette église, le meilleur. Mais voyez-vous, fonctionner au niveau auquel nous fonctionnons, avec un matériel âgé et usé et surusé et surexploité, n'est-ce pas? Depuis 15 ans, ça s'appelle passer du naturel au surnaturel. C'est totalement quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous comprenez cela? Et moi, je suis en train de vous dire, il y a des dons et des talents dans votre vie. Voyez-vous, par exemple, pour Damien et toute l'équipe de la Sono, Dieu leur a donné le don dans ces choses techniques, du son et d'être ingénieur dans le son, n'est-ce pas? Eh bien, s'ils faisaient autre chose, ils seraient dans le naturel. Mais alors qu'ils fonctionnent dans leur don, ils deviennent surnaturels. Vous n'en avez pas conscience, vous ne le réalisez pas, mais moi je vous le dis dans le nom de Jésus, ils fonctionnent dans le surnaturel. Oui, mais ils fonctionnent dans le domaine dans lequel Dieu les a placés, avec la force et la puissance, les dons et les caractéristiques que Dieu a mis en eux. Maintenant, s'ils voulaient faire autre chose, s'ils voulaient, je ne sais pas, faire autre chose, n'importe quoi, ils seraient dans le naturel peut-être, comme toute espèce d'autres personnes, comme tout un chacun. Lorsque nous fonctionnons dans l'appel de Dieu pour nous, nous devenons surnaturels. Nous passons du naturel au surnaturel. Samson, lorsqu'il opérait, dans sa force, il passait d'un homme naturel à un homme surnaturel. Et le diable ne supporte pas le surnaturel dans votre vie. Vous comprenez? Il ne supporte pas lorsque vous vous tenez dans cette position de surnaturel. Cette position de surnaturel correspond à ce que Dieu a demandé de votre vie. Dieu a demandé des choses différentes à chacun d'entre nous. Moi, je me souviens, il y a de longues années de cela, lorsque je n'étais pas mariée, lorsque je ne vivais pas à Paris, et que j'étais assise dans une pastorale, j'étais assise dans une réunion, c'était en fait exactement, très précisément, 6 mois avant que je rencontre mon mari, j'étais assise dans cette réunion, c'était une réunion donc pour les serviteurs de Dieu, j'avais commencé à prêcher, Dieu m'avait vraiment mis un coup de pied aux fesses pour que je commence à prêcher, et je ne savais pas pourquoi, vous dire que prêcher me plaisait. Non, ça ne me plaisait pas. Il y a peut-être certaines personnes qui sont démangées par le micro. Moi, je n'ai jamais été démangée par le micro. Je n'ai jamais voulu le micro. Dieu m'a donné un coup de pied aux fesses et m'a dit « Démarre, dépêche-toi ». Et donc, j'ai commencé à prêcher. Et je me souviens, lorsque j'étais dans cette pastorale, j'étais assis à ma place. C'était exactement le pasteur Bobby Indian qui est venu prêcher dans cette église, qui prêchait donc à l'époque dans cette pastorale. Un merveilleux pasteur, il prêchait une merveilleuse parole. J'étais en train de boire et de boire ses paroles. Et lorsque j'étais en train d'écouter la prédication, et une voix, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est venu à moi. C'était une voix de l'esprit qui s'est imposée à moi, qui m'a dit, j'ai une autre chose pour toi. Il y a une autre chose que je te demande de faire. J'ai un autre travail pour toi. Et il m'a dit, tu vas interpréter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'aime interpréter? Est-ce que j'ai un jour rêvé d'interpréter? Non! J'ai jamais rêvé d'interpréter. Et je me souviens, lorsque j'ai reçu cette parole, j'ai pensé en moi-même, cette parole était claire et je savais qu'elle venait de l'Esprit. Et Dieu n'a toujours pas changé d'opinion à ce sujet. Mais lorsque cette parole est venue à moi, je me suis dit, moi qui habitais donc à l'époque à Vichy, qui vivais avec mes parents, je me suis dit, et qui travaillait avec ma mère donc dans l'église, je me suis posé la question, qui dans le monde vais-je donc interpréter? Vais-je devoir interpréter ma mère? Sûrement pas. Qui vais-je interpréter? Qu'est-ce que veut dire cette parole? Pourquoi une telle visitation? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est ce que Dieu m'a demandé. Vous dire que ça me plaît, j'ai dû apprendre, j'ai dû souffrir aussi, hein, parce que lorsque Dieu vous demande quelque chose, c'est jamais tout rose. J'ai eu mes luttes, j'ai eu mes souffrances, hein, j'ai eu mes victoires, j'ai eu aussi mes échecs, et j'ai dû apprendre, comme tout le monde, sur le chemin, à obéir à Dieu, de sorte que Dieu puisse me faire passer du naturel au surnaturel. Donc, je sais exactement ce que Dieu m'a demandé dans ma vie. Et je sais que s'il me demande autre chose, je vous le dirai. Mais jusqu'à présent, il ne m'a jamais rien demandé de nouveau. Vous comprenez? Et ça, ça fait 13 ans de cela. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a toujours pas changé d'avis. Mais en d'autres termes, Dieu me dit, et qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque l'on se tient dans ce que Dieu nous demande, on se tient dans la puissance de Dieu. On peut être là et on peut avoir confiance que sa puissance va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses dans votre vie qui vous rendent surnaturel. Et j'aimerais vraiment que vous le compreniez. Certains d'entre vous, c'est un certain service, un certain travail, une certaine tâche. D'autres, c'est lorsque vous entrez dans votre chambre de prière et d'intercession, vous devenez surnaturel. Vous commencez à être revêtu d'une puissance extraordinaire. Parce que c'est exactement ce que Dieu vous demande. D'autres, c'est peut-être le secrétariat. D'autres, c'est l'administratif. Mais peu importe quoi, vous devez fonctionner dans ce que Dieu vous a demandé. Mais sachez une chose, il y a des Delilahs qui viendront à côté de vous, parce qu'ils veulent le secret de votre force. Ils veulent le secret de votre puissance, n'est-ce pas? La plupart des gens se concentrent sur leurs faiblesses. Sachez une chose, Satan, lui, est concerné. Il se concentre sur vos forces. Ce qui l'intéresse, c'est vos forces. Il s'attaque à votre force. Il s'attaque à votre consécration. Il veut vous ramener à ce que vous étiez avant que vous deveniez surnaturel. Vous comprenez? Il veut vous ramener à ce que vous étiez avant que vous deveniez extraordinaire. Maintenant, on n'est pas extraordinaire 24 heures sur 24. On est extraordinaire lorsqu'on est là où Dieu nous place, au moment où Dieu veut que nous soyons, dans le service dans lequel Dieu veut que nous ayons. Hallelujah. Mais sachez une chose, Satan veut vous retrancher de cette zone de force qui vous appartient. Et pour cela, il vous envoie une Delilah. Et la Bible dit que Delilah venait plutôt proche de Samson. Elle venait pas contre Samson, dans le naturel. Elle venait vers Samson. Et la Bible dit qu'elle le tourmentait jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Maintenant, vous devez savoir que Samson n'a jamais réprimandé Delilah. Samson ne s'est jamais enfui loin de Delilah. Samson n'est jamais parti. Samson ne lui a jamais dit de se taire. Samson ne s'est jamais levé dans son autorité. Samson ne lui a jamais dit ce qu'il aurait dû lui dire. Il aurait dû lui dire, dis donc, c'est un secret entre moi et Dieu. Cette chose-là ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de savoir le secret de ma force. Ce n'est pas à toi de connaître le secret de ma puissance. C'était littéralement un secret extrêmement gardé. Personne ne savait que la puissance résidait dans le fait que ses cheveux n'avaient jamais été rasés. Personne ne savait que la puissance était là. Mais l'ennemi cherchait quel était le secret de sa puissance. Vous savez, l'ennemi cherche quel est le secret de votre force. Quel est le secret de votre force? Quel est le secret de votre puissance? Vous devez faire attention. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous devez faire attention. Hallelujah. Samson ne s'est jamais levé. Et elle l'a tellement harcelé. Elle lui a tellement posé de questions, elle l'a tellement tourmenté, que Samson, parce qu'il ne s'est jamais levé, il s'est retrouvé dans un état de faiblesse. La Bible dit qu'elle l'avait vidé de toute force. Elle l'avait littéralement épuisé. Au point où il lui a livré le secret de sa force. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que Delila n'a jamais aimé Samson. Samson n'a jamais réprimandé Delila. Il y a des choses dans votre vie. Il y a des choses qui sont autour de vous et qui ne vous aiment pas. Il y a des choses, il y a des loisirs et même des plaisirs qui ne vous aiment pas. Et il y a des choses que vous devez réprimander dans votre vie. Il y a des pensées que vous devez réprimander dans votre vie. Il y a des paroles que vous devez réprimander. Il y a des relations que vous devez réprimander. Il y a des tourments qui viennent de l'ennemi que vous devez réprimander. Vous devez voir la ruse de l'ennemi. Vous devez voir plus loin que le bout de votre nez. Vous devez voir où est-ce que ces choses vont vous amener. Où est-ce que ces choses vont vous conduire. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que, mes amis, de ne pas avoir réprimandé Delila a fait que, lorsque l'ennemi a su exactement où se trouvait le secret de sa force, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? Lorsque l'ennemi est capable de pénétrer dans le secret de votre force, la deuxième chose qu'il va faire, il va vous crever les yeux. Parce que la première chose qu'il a fait à Samson, il a voulu pénétrer le secret de sa force. Et lorsqu'il a su quel était le secret de sa force, ils l'ont pris, ce Samson, alors qu'il avait la tête sur les genoux de Delila, ils lui ont rasé ses tresses, ils lui ont rasé ses cheveux. Il s'est levé comme s'il avait de la puissance, mais il n'avait plus de puissance. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il lui a crevé les yeux. Et mes amis, les yeux, aussi terribles soient-ils dans le naturel, représentent donc ses yeux, mais dans le spirituel, ça représente notre vision. Les Delilahs que vous laissez dans votre vie feront que vos yeux seront crevés. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir les yeux crevés? Ça veut dire perdre la vision, perdre sa vision, perdre sa motivation. L'ennemi veut vous crever les yeux, mes amis. La première chose qu'il fera lorsqu'il sera capable de pénétrer dans le secret de votre force, il vous crèvera les yeux. Et qu'est-ce que l'on fait lorsque on a les yeux crevés? On est un aveugle. On ne connaît plus notre droite de notre gauche. On n'est plus capable de se diriger. On n'est plus capable de comprendre les directions de Dieu. On n'a plus de direction. Et lorsque l'on est aveugle, on ne peut même pas conduire les autres. La Bible dit, comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux tomberont dans un trou. Donc lorsque le diable est capable de pénétrer le secret de votre force, la chose suivante qu'il fera, il vous enlèvera votre vision. Et lorsque vous n'avez plus de vision, écoutez-moi bien, vous n'avez plus de destination. Est-ce que vous m'entendez cet après-midi? Vous n'avez plus de destination. Vous n'avez plus de direction. Vous n'allez plus dans la bonne direction. Hallelujah. La troisième chose que l'ennemi fera. Premièrement, il veut pénétrer le secret de votre force. Deuxièmement, il vous crèvera les yeux. Et troisièmement, il vous fera tourner en rond. Ils ont pris Samson, ils lui ont crevé les yeux et ils l'ont mis à la meule. Et là, l'homme de Dieu qui était si puissant, qui avait tellement brillé de sa gloire, la puissance de Dieu était sur lui. Il avait fait des prodiges extraordinaires. Il s'est retrouvé à la place d'un bœuf, littéralement, en train de tourner la meule. En train de tourner la meule. Lorsque vous n'avez plus de vision, vous tournerez en rond. Écoutez-moi bien, il n'y aura pas de victoire dans votre vie. Il n'y aura pas de percée dans votre vie. Si vous ne suivez pas les instructions que Dieu vous a données, si vous ne suivez pas la direction que Dieu vous a donnée, tôt ou tard, vous vous trouverez en train de tourner à la meule. Les yeux crevés, sans vision ni destination. vous vous retrouverez en train de tourner la meule. En d'autres termes, vous tournerez en rond. Et mes amis, on peut tourner en rond longtemps. Longtemps. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous savez, Dieu n'est pas pressé. Mais par contre, Dieu ne peut rien faire tant qu'on n'est pas dans la bonne direction. Dieu ne peut rien faire tant que notre cœur n'a pas été sanctifié, purifié, tant qu'il n'est pas une matière utilisable entre ses mains. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je suis en train de vous dire des choses qui sont précieuses, je le crois. C'est très important. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Si vous portez l'onction, vous devez faire attention. Parce que vous risquez, si vous laissez l'ennemi, si vous laissez des Délilahs dans votre vie, s'il y a des choses que vous ne nettoyez pas, s'il y a des pensées que vous n'enlevez pas, vous risquez de laisser le diable trouver le secret de votre force. Et après, vous passerez du surnaturel au naturel. Et lorsque vous passerez au naturel, le diable crèvera vos yeux. Vous n'aurez plus de vision. Et lorsqu'il crèvera vos yeux, eh bien, il vous amènera à la meule et vous tournerez. Et n'oubliez pas que le peuple d'Israël a tourné dans le désert 40 ans. 40 ans, il a tourné en rond. Hallelujah. Gloire à Dieu. Vous savez quelle était la faille dans la vie de Samson? C'est que Samson, qui avait la puissance de Dieu, n'a jamais véritablement été centré sur Dieu. Samson était très centré sur lui-même. Il était centré sur ses désirs. Il était centré sur les choses qu'il aimait. Il était centré sur lui-même. Et la preuve de cela, c'est que lorsque ses cheveux ont recommencé à pousser, et gloire à Dieu parce que Dieu donne toujours une deuxième chance, et même Dieu donne aussi une troisième chance, et même Dieu donne aussi une quatrième chance, lorsque ses cheveux ont recommencé à pousser, la Bible dit que Samson, donc, a retrouvé sa force, il a retrouvé sa puissance, la puissance est revenue sur lui. Et là, il a été conduit, vous savez, dans ce palais des Philistins. Il y avait tous les Philistins qui étaient là. Et qu'est-ce que Samson a dit? Il s'est tourné vers Dieu et il a dit, « Seigneur, il a dit, Dieu, maintenant que tu me redonnes ta puissance, de sorte que je me venge de mes ennemis. » La seule chose qui intéressait Samson, c'était de se venger de ses ennemis. Son point de concentration n'était pas sur Dieu. Son point de concentration était sur lui-même. Dans cette situation-là, il a demandé vengeance de ses ennemis. Ses yeux et son cœur n'étaient pas centrés sur Dieu. Il était centré sur lui-même. Alléluia. Maintenant, je peux vous dire une chose. On n'est pas obligé d'être comme Samson. Certaines personnes, vous savez, disent « Oh, Samson, vous savez, Dieu ne termine jamais les choses de façon négative. » Samson, ses cheveux ont repoussé, c'est extraordinaire. Vous savez, pour moi, Samson n'est pas un exemple. Il a été un homme extrêmement puissant, mais il a terminé misérable. Certains disent, oh, mais ses cheveux ont repoussé, etc. Pour moi, il n'a pas terminé de la façon dont Dieu voulait qu'il termine. Dieu n'avait pas l'intention que son serviteur termine écroulé entre deux colonnes, avec les yeux crevés, et des chaînes aux pieds et aux mains. Et quand bien même il avait tué tous les Philistins, ce n'était pas le plan de Dieu qu'il termine de cette façon-là. Qu'on ne me dise pas cela. Amen. Et donc, mes amis, ça veut dire que on est puissant, n'est-ce pas? On a la puissance de Dieu sur nous. Mais nous devons faire attention de rester puissants. Parce que aussi puissant que l'on peut être, aussi doué, aussi capable, aussi ouin, on peut très bien en sortir rapidement, faire un pas et sortir de notre onction et terminer et être là dans le naturel. On se connaît dans le surnaturel, mais on peut aussi terminer dans le naturel et sortir du surnaturel de notre vie. Alléluia. Mais mes amis, j'aimerais vous parler d'un homme, et je vais terminer avec lui. J'aimerais vous parler d'un homme qui n'a pas fait comme Samson. Et il a pris les choses à la racine. Et cet homme, il s'appelle Joseph. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Genèse 39. Joseph, on peut dire que on peut voir en fait vraiment presque la même situation avec Joseph. On peut voir vraiment une immense similitude de tentation, vraiment de personnes que Dieu, que l'ennemi place autour des gens qui ont l'onction et la puissance de Dieu, qui ont une tâche, qui a un rôle à accomplir. Mais on voit comment Joseph a réagi. Et si vous êtes avec moi dans Genèse 39, il est dit, à partir du verset 4, il est dit, « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Donc, qu'est-ce qui se passait? Lorsque Joseph était là, chez Potiphar, il était dans sa place d'onction. Il était devenu intendant de la maison. Et tout ce que Joseph faisait, tout ce que Joseph touchait, à cause de l'onction de Dieu sur sa vie, parce qu'il était exactement dans sa place, parce que c'était en miniature ce qu'il allait devenir pour le pays entier lorsqu'il allait devenir ministre, tout ce qu'il faisait prospérait. Lorsqu'il était chez Potiphar, dans cette position d'intendant de la maison de Potiphar, il fonctionnait totalement dans son onction. Et parce qu'il fonctionnait totalement dans son onction, qu'est-ce qui se passait? Tout prospérait. Samson aussi, lorsqu'il se trouvait dans cet état de puissance, il fonctionnait dans son onction. N'est-ce pas? Joseph était dans son onction et tout prospérait. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait donc à cet Égyptien, soit à la maison, soit au champ. Et donc, Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre soin de sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Je suis en train de vous dire que l'ennemi est attiré par tout ce qui brille. Mais pas ce qui brille selon le monde. Tout ce qui brille selon Dieu. Lorsque vous avez un don, lorsque vous avez un talent, lorsque vous avez une capacité, lorsque vous avez un appel, lorsque vous avez une onction pour le service spécial, l'ennemi le voit parce que vous brillez dans votre domaine d'onction. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous brillez? Vous attirez tout ce qui est bon, vous êtes une bénédiction, mais aussi vous attirez tout ce qui est mauvais. Parce que l'ennemi vous voit, l'ennemi est attiré vers vous parce qu'il veut le secret de votre force. Il veut pénétrer le secret de votre puissance. Et pour Joseph, ce n'était pas une Delila, c'était la femme de Potiphar. Après ces choses, verset 7, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Elle porta les yeux sur Joseph parce que Joseph était oint, parce que Joseph n'était pas n'importe qui, parce que Joseph avait une onction sur sa vie, parce que Joseph avait un plan. Dieu avait l'intention de faire de Joseph un libérateur, tout comme Dieu avait l'intention de faire de Samson un libérateur. Mais je vous dis dans le nom de Jésus, vous êtes appelés à être des libérateurs. Dieu vous a appelés à libérer les plans de Dieu sur cette terre. Dieu vous a appelés à libérer son royaume sur cette terre. Dieu vous a appelés à libérer l'onction sur cette terre. Dieu vous a appelés à libérer la prière sur cette terre. Dieu vous a appelés à libérer l'intercession sur cette terre. Dieu vous a appelés à libérer tous les plans et la volonté de Dieu sur cette terre. Dieu a placé une onction sur votre vie. Joseph était oint. Chez Potiphar, il était oint. Partout où il était dans la prison, il était oint parce qu'il fonctionnait dans son onction. Lorsque l'on fait un pas et que l'on sort de notre onction, je le répète encore, on sort du surnaturel de Dieu dans notre vie pour tomber dans le naturel. Si Joseph avait voulu faire autre chose que les choses auxquelles Dieu l'appelait à faire, il n'aurait jamais fonctionné dans le surnaturel. Il n'aurait jamais été un homme surpuissant. Parce qu'il a été véritablement un homme surpuissant. Pour faire ce qu'il a fait, ce n'était que la capacité de Dieu. Ce n'était que la puissance de Dieu au travers de lui. Et moi, je vous dis une chose. Oh, je sens quelque chose dans mon esprit. Je vous dis une chose. Dieu s'attend à ce que vous fonctionnez dans votre domaine de puissance. Vous devez le connaître, ce domaine de puissance. Vous devez le connaître, ce domaine de puissance. Moi, j'ai vu des gens, je me rappelle d'un évangéliste, un puissant évangéliste. Il avait une onction extraordinaire. Et vraiment, la puissance de Dieu se libérait dans ses réunions. C'est un évangéliste vraiment de notre génération. Et j'ai vu les miracles. J'ai vu les gens guérir. J'ai vu la puissance de Dieu sur sa vie. À partir du moment où il a voulu enseigner, il a voulu être un docteur de la parole, alors qu'il était un évangéliste, les miracles sont passés dans sa vie. Il a été impressionné par des gens qui enseignaient la parole, qui avaient des foules qui venaient enseigner. Et il a voulu lui-même devenir un enseignant. Il a voulu lui-même enseigner le peuple de Dieu. Dieu l'avait appelé à être un évangéliste. Rappelez-vous Kenneth Hagin. Dans un de ses livres, je me rappelle vaguement comme cela, mais dans un de ses livres, je crois qu'il s'est cassé le bras ou cassé le coude, et puisque aucune maladie ne l'avait touché depuis qu'il avait été si sévèrement malade lorsqu'il avait, je crois, 17 ans et qu'il mourait donc de ce cœur mal formé et que Dieu l'avait touché vraiment puissamment et sa foi, Marc 11, 23, l'avait totalement relevé. Jamais surnaturellement il n'avait été malade. Jamais, jamais, ses enfants n'avaient jamais été malades, ils n'avaient jamais appelé le médecin. Ils fonctionnaient vraiment dans un surnaturel extraordinaire. Mais à partir du moment, je crois que Dieu l'avait appelé, premièrement, à se tenir en tant dans le ministère de prophète, et puis dans le ministère de docteur. Et vous voyez, même lorsque vous voyez le ministère du prophète Bernard qui est venu et qui nous a visités, vous voyez qu'est-ce que le ministère du prophète. C'est pour ça que bien souvent nous enseignons les gens, nous leur parlons du ministère du prophète, parce qu'il y a tellement de gens qui disent « Oh, je suis prophète ». Je peux vous dire, ils sont pas prophètes. Parce que le ministère de prophète, c'est un ministère de puissance. Le ministère de prophète fonctionne dans l'onction du prophète, mais il fonctionne aussi dans l'onction du docteur, il fonctionne aussi dans l'onction de miracles et de surnaturel. Il y a énormément de surnaturel avec l'onction et le ministère du prophète. Enfin bon, c'est pas mon sujet, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Et donc il est arrivé à un moment où le frère Hagin, je crois, donc a cassé son cou de quelque chose comme cela. Et il a été guéri vraiment, et puis il a été guéri, mais pas entièrement. Et il restait donc un problème dans la fonctionnalité de son coude. Et il priait. Et le Seigneur lui a parlé. Et le Seigneur lui a dit, tu as dit et tu crois que ton ministère est premièrement le ministère de docteur, alors que je t'appelle à premièrement être un ministère de prophète. Et je ne réparerai pas ces 10% de la capacité de ton coude pour que tu te souviennes que premièrement je t'ai appelé à être un prophète. Vous savez, Dieu ne plaisante pas avec les dons et les appels. Est-ce que vous m'entendez? Les dons et les appels sont irrévocables. Dieu ne plaisante pas. On ne saute pas d'un appel à un autre. On ne sonne pas d'une onction à une autre. Est-ce que vous comprenez cela? Samson était oint parce qu'il fonctionnait dans son appel. Joseph était oint parce qu'il fonctionnait dans son appel. Mais lorsque l'on fonctionne dans l'appel de Dieu et dans la gloire de Dieu, il y a des femmes de Potiphar et il y a des Délilah. Et donc la femme de Potiphar a posé ses yeux sur lui. Et ce n'était pas des yeux d'amour. Et mes amis, la convoitise n'a rien à voir avec l'amour. Parce que la convoitise veut le mal de la personne. Un homme qui convoite une femme n'aime pas une femme. Il la prendra, il couchera avec elle, il la consommera et il la jettera. Parce qu'il ne l'aime pas. Parce que juste après avoir consommé cette femme, il aura un rejet pour elle parce qu'il n'a pas d'amour pour elle. Et ça s'appelle la convoitise. Et Délilah et la femme de Potiphar avaient de la convoitise. Et donc la femme de Potiphar a posé les yeux sur Joseph et elle l'a convoité. Il est écrit après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar, la femme de son maître, porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Mais là, mes amis, nous voyons Joseph qui se lève. Et Joseph qui ne va pas faire la même erreur que Samson, il ne va pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et la Bible dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Voyez la différence entre Samson et Joseph. Samson n'a jamais réprimandé Delila. Il y a des pensées que vous devez réprimander. L'ennemi ne vient pas toujours comme une femme à moitié dénudée, ou comme un homme à moitié dénudé. L'ennemi vient sous forme de pensée. L'ennemi est venu contre Samson. Et Samson n'a pas réprimandé Delila. Mais la Bible dit que Joseph, qui avait l'esprit de Dieu, à l'instant où la femme de Potiphar s'est approchée avec ses propositions, il a refusé, il l'a réprimandé. Nous devons réprimander certaines choses de nos vies. Nous devons réprimander la paresse. Nous devons réprimander toutes les choses qui veulent s'attacher à nous. L'impureté qui est dans ce monde, l'indolence, la complaisance, le péché, et toutes ces choses, nous devons les réprimander. Et donc, il lui dit, et ça c'est très important, regardez au verset, juste après, donc à la fin du verset 9, il est écrit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Potiphar ?» Est-ce que j'ai bien lu ou j'ai mal lu ? J'ai mal lu. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela ? Il est écrit, et donc Joseph a répliqué, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Joseph avait conscience de Dieu, alors que Samson n'avait pas conscience de Dieu. Joseph était centré sur Dieu, mais Samson n'était pas centré sur Dieu, il était centré sur lui-même. Lorsque la femme de Potiphar est venue faire ses propositions, il n'a pas dit « Comment pécherais-je contre Potiphar ?» Quand bien même il aurait péché effectivement contre Potiphar, il a pensé même à Dieu avant Potiphar. Il a dit « Comment pourrais-je faire cet aussi grand mal ? Et pécherais-je contre Dieu ? Contre mon Dieu ?» Partout où Joseph est allé, lorsqu'il était chez Potiphar, il avait conscience de Dieu. Lorsqu'il était dans la prison, il avait conscience de Dieu. Lorsqu'il est devenu le premier ministre de l'Égypte, là encore, il a servi en ayant toujours une conscience de Dieu. Vous devez toujours avoir conscience de Dieu dans votre vie. Arrêtez d'avoir conscience de vous-même. Arrêtez d'avoir conscience des gens. Arrêtez même d'avoir conscience du diable. Ayez conscience de Dieu. Craignez Dieu plus que toute autre chose. Craignez l'Éternel, servez l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est très important parce que nous devons rester dans la position que Dieu nous a placée. Si vous voulez expérimenter un réveil spirituel, changez votre façon de prier. Faites ce que je vous ai dit ce matin. Commencez à le louer, à l'adorer. Arrêtez de supplier Dieu, de quémander après Dieu, de lui courir derrière pour vos besoins. Changez, révolutionnez votre façon de prier. Deux, alléluia, changez votre façon de donner. La façon dont vous donnez montre la façon dont vous le servez. Montre votre cœur. Et mes amis, que rien ne vous lie, que rien ne vous tienne. L'ennemi veut nous lier, l'ennemi veut nous tenir. Il veut nous tenir dans les finances, il veut nous tenir dans toute espèce de choses. Vous savez, j'aime évidemment les histoires, les expériences extraordinaires que le prophète Bernard a expliquées. Ce sont évidemment des expériences qui sont hors du commun. Ça n'arrive pas à tout le monde, tous les jours. Mais lorsqu'il a raconté cette femme du pasteur, vous vous rappelez de cela ? Cette femme du pasteur qui était si terrible, qui était si mauvaise, qui abusait vraiment de lui, qui le méprisait, qui lui faisait du mal. Et lui qui a reçu ce grand héritage, et c'était extraordinaire pour lui. Et lui qui n'avait jamais eu, jamais rien possédé dans la vie. Voici qu'il reçoit un ministère entièrement, des finances, des comptes en banque, des maisons, des propriétés. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à se réjouir, à s'installer dans cette position. Et Dieu lui dit, donne, abandonne. Elle lui dit, mais j'ai pas bien entendu de la... Seigneur, c'est pas toi qui me parles, c'est le diable qui me parle, dans le nom de Jésus. Hein? Vous savez, Dieu ne veut pas que nous soyons liés ou attachés. Liés par quoi que ce soit. Nous devons être libres. C'est pourquoi nous devons changer notre façon de donner. Si nous sommes capables, écoutez-moi, si vous êtes capable d'être libre avec Dieu dans les finances, Dieu peut vraiment libérer sur vous de grandes choses. Parce que les finances, la Bible dit que ce qui est proche de ton cœur, hein, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Hein, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les finances sont extrêmement importantes dans notre vie. Amen. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses et prendre soin de nous. Et tout cela, c'est merveilleux et Dieu le veut. Mais les finances, ça peut être aussi des choses qui nous lient. Et Dieu ne veut pas que nous soyons liés. Ne soyez pas liés par quoi que ce soit, que rien ne vienne vous lier. L'ennemi veut vous lier parce qu'il veut vous dompter, comme pour Samson. Que nous puissions connaître le secret de sa force, afin que nous le lions et que nous le domptions. Lorsque l'ennemi peut vous lier, il est capable de vous dompter. Lorsque on dompte un animal, eh bien, on le soumet. Hein? On soumet un animal. On le soumet à notre volonté. On le soumet à la volonté de celui qui dompte, du dompteur. Donc ne soyons pas liés par quoi que ce soit. Et mes amis, lorsque l'on est libre avec Dieu dans nos finances, on sera libre avec Dieu dans tout le reste. Et la chose extraordinaire, c'est lorsqu'il a rendu cet héritage, Dieu lui a donné bien au-dessus. Dieu lui a donné ce ministère international. Dieu n'avait pas prévu simplement pour lui un petit, quoique merveilleux, ministère local au Ghana. Dieu avait prévu un ministère international pour lui, dans les nations du monde, auprès des rois et des chefs de ce monde. Hallelujah. Mais il fallait qu'il abandonne d'abord son Isaac. Et ça, c'est très important. Nous devons changer notre façon de donner. Et troisièmement, si vous voulez expérimenter un réveil spirituel, faites attention aux délilats. Parce que les délilats viennent, ce sont vraiment des pots de colle dans votre vie. C'est des choses qui viennent pour vous coller, vous scotcher. Après, vous devez les réprimander. Amen. Vous ne devez pas ressembler à Samson. Vous devez être un Joseph. Et vous devez réprimander ces délilats dans le nom de Jésus, afin que rien ne vienne enchaîner ou entraver votre course. Hein? Combien de forts vous avez vus, hein? Combien de gens forts vous avez vus, hein? Ils étaient forts, ils brillaient pour Dieu, ils ont disparu. Combien se sont levés, hein? Et même il y en a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers que nous ne connaissons pas. Tous les jours, il y a des églises qui sont créées dans toutes les nations du monde et même en France. Tous les jours! Tous les jours! Il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui se lèvent et demain disparaissent. Vous comprenez cela? On en a vu des forts. Et on en verra encore des gens qui sont forts, qui étaient forts, qui ont marché dans la puissance de Dieu et qui ont disparu. Je vous dis, faites attention, l'ennemi veut le secret de votre force. Il veut pénétrer le secret de votre puissance parce qu'il veut vous dompter et vous lier. Mais ne le permettez pas dans le nom de Jésus. Ne laissez pas un parent, un ami dépenser du découragement, de l'argent, du travail. Le travail! Mes amis, combien de personnes disent « Oh, je ne peux pas venir à l'église, je travaille, j'ai ce travail. » Mes amis, si vous avez un travail qui vous empêche de venir à l'église, priez que Dieu vous donne un autre travail. L'ennemi vous domptera d'une façon ou d'une autre. Les gens qui ne vont pas à l'église, mes amis, je vous le dis, les gens qui ne vont pas à l'église se font lier par le diable comme ça. Ils pensent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils sont forts, et lorsque quelque chose vient, ils pensent qu'ils se lèvent avec puissance et ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de puissance. Parce que Dieu a prévu que l'on soit dans l'église. Dieu a prévu que le peuple de Dieu vienne dans l'église, qu'il reprenne sa force, qu'il soit rechargé par la parole de Dieu, de sorte qu'il avance. Je peux vous dire, je ne crois pas dans une église qui n'a pas de réunion au milieu de la semaine. Je ne crois pas. Je ne crois pas que les chrétiens dans le monde dans lequel nous vivons peuvent aller d'un dimanche à un autre dimanche. Je crois que les chrétiens, ils ont besoin de venir à l'église le dimanche et ils ont besoin, et c'est salutaire pour eux, de venir aussi à l'église en milieu de semaine et après de revenir le dimanche suivant. Dans le monde dans lequel nous vivons, vous vous débranchez, vous vous déconnectez et très rapidement, vous allez vous retrouver comme parti à la dérive. Vous serez à la dérive dans vos pensées, à la dérive dans vos cœurs, dans vos émotions. Vous savez que si vous mettez un canoë, si vous mettez quelque chose dans le courant, au milieu de l'océan, hein, un bateau, il navigue avec les instruments. Lorsque vous êtes au milieu de l'océan, où est-ce que vous allez? Comment vous connaissez votre direction? Hein? Vous pouvez pas connaître votre direction. Donc, un navire est obligé de conduire aux instruments, n'est-ce pas? Et donc, si vous êtes un canoë, si vous partez du navire et que vous voulez aller vous balader sur votre canoë, vous allez vous retrouver à la dérive. Vous ne retrouverez jamais votre destination. Savez-vous que les gens qui pilotent, j'ai rencontré un pilote, ok? J'ai un ami qui est pilote. On a discuté ensemble et il m'a expliqué des choses très, très intéressantes. Lorsqu'il a commencé à piloter, un petit avion et donc ils sont partis, ils ont passé au-dessus des nuages et il ne pilotait pas aux instruments, il pilotait donc au regard. Et il a expliqué que l'oreille interne de chaque personne qui fait que sur Terre, ici, on connaît nos directions, on a un certain sens de l'orientation, on entend les choses, on sait d'où vient le bruit à peu près, etc. C'est notre oreille interne. Lorsque nous montons en altitude, elle est totalement déréglée. Hein. Et donc, l'oreille interne qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est en haut et qu'est-ce qui est en bas, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche, est totalement déréglée. Donc, lorsqu'un quelqu'un apprend à piloter, il commence, on l'amène, et le pilote l'amène volontairement dans le ciel. Et dans le ciel, là, il ne s'en rend pas compte. Il pense qu'il suit la bonne direction. Mais il m'a expliqué, en fait, vous pouvez penser aller tout droit et vous allez complètement dans une autre direction en étant persuadé que vous allez tout droit. Parce que dans l'immensité du ciel, vous n'avez plus aucun repère. Comprenez? Et même, il m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, vous pensez que vous êtes à l'endroit, que vous êtes comme cela, debout, alors que votre avion, si vous passez dans un nuage, vous ne vous en rendez même pas compte. Si vous passez dans un nuage, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pouvez vous retrouver la tête à l'envers sans le savoir. Sans le savoir. Il y a des gens, et je connais quelqu'un dans ma ville à Vichy, un homme d'affaires. Qui pilotait son propre avion. Et je connais même le nom de cette personne, etc. Mon père a souvent travaillé donc avec cette entreprise, une grande entreprise, un grand homme d'affaires. Il avait l'habitude de piloter lui-même son avion. Et il avait son avion, donc il allait d'entreprise en entreprise, etc. Il faisait son travail. Et cet homme est mort. Cet homme qui était expérimenté, il s'est écrasé et il est mort. Et voyez-vous, la raison pour laquelle il est mort, c'est qu'il n'a plus conduit selon les instruments. C'est qu'à un moment donné, il a conduit. Il a fait une erreur que tout pilote ne doit jamais faire. Il a conduit selon ce en quoi il était persuadé. Et il était sûr que c'était le bon sens. Et il a fait une vrille qui était tellement importante que lorsqu'il est sorti du nuage, il est arrivé droit, il s'est écrasé en un instant, alors qu'il pensait qu'il était à l'endroit, il était à l'envers. Bon, vous dites, mais pourquoi est-ce que je vous parle de pilotage? Pourquoi est-ce que... Parce que, mes amis, nous sommes censés conduire nos vies en fonction des instruments. Nous ne conduisons pas nos vies en fonction de ce que nous ressentons ou de ce que nous pensons. Nous conduisons nos vies en fonction de ce que Dieu nous a dit. Premièrement, de ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Deuxièmement, de ce que Dieu nous a dit personnellement. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, ce que Dieu nous dit personnellement, c'est très précis. Ça n'a rien à voir avec une nébuleuse. Hein. Ça n'a rien à voir avec une impression. Ça n'a rien à voir avec une espèce de découragement. Ça a à voir avec des choses très précises que Dieu nous demande. Vous comprenez cela? Parce que si on conduit nos vies en fonction de ce que nous sentons, nous pouvons exactement être comme un pilote dans le ciel qui pense aller à l'endroit alors qu'il est à l'envers, qui pense qu'il est en train de monter alors qu'il est en train de descendre, parce que son oreille interne est totalement déréglée. Nous devons conduire nos vies en fonction des instruments. Et les instruments, c'est ce que Dieu nous demande et ce que sa parole nous demande. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Faites attention. Soyez, vraiment la Bible dit, veillez et priez. Soyez des gens qui veillent et qui prient. Pourquoi je vous ai dit tout cela? C'est parce que si vous vous déconnectez, je vous dis, si vous vous déconnectez en très peu de temps, parce que maintenant ça ne prend plus à la demi-heure, très longtemps, je vous dis en très peu de temps, vous vous trouverez à la dérive. Vous vous trouverez comme ce pilote qui ne sait plus ni l'avant, ni l'arrière, ni le droit, ni le devant. Il ne sait plus rien. Ne vous déconnectez pas de la présence de Dieu. Ne vous déconnectez pas des plans et des buts de Dieu pour vous. Ne vous déconnectez pas de la puissance de Dieu. Ne vous déconnectez pas de l'Église. Ne vous déconnectez pas de là où Dieu vous a placé ou de service dans lequel Dieu vous a placé ou Dieu vous a demandé. Parce que sinon, en quelques instants, je peux vous dire très rapidement, en quelques semaines, vous vous trouverez à la dérive. Et ce que vous avez bâti, ce qui vous a pris toute une vie, le diable peut le détruire en quelques semaines, en quelques mois. Alléluia. Soyez prudents. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux ensemble ce soir. Jesus. Cobra namando so prions en langue.